Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire. Dès demain et jusqu'à jeudi, nous vous parlerons de l'apprentissage de la sexualité. Mais aujourd'hui, nous vous parlerons d'un pays au XXe siècle, la Pologne, et d'un empereur romain, Néron. Cette semaine, la Fabrique traite en effet de l'histoire des apprentissages de la sexualité. Demain, le documentaire de Delphine Saltel et Renaud Dalmar nous racontera la naissance de la sexologie en France. Mercredi, une émission d'archives sur les apprentissages de la sexualité entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et jeudi, un débat sur l'apprentissage de cette même sexualité dans la Rome antique. Et aujourd'hui, me direz-vous, nous vous proposons de réfléchir aux usages politiques et littéraires de l'histoire à partir de deux cas très opposés, très distingués en tous les cas, la Pologne au XXe siècle, telle qu'elle nous est racontée par le politiste Georges Mink dans La Pologne au cœur de l'Europe de 1914 à nos jours, publié chez Buchet-Chastel, et la figure de Néron, sujet du livre de Donatien Gros que nous recevrons en deuxième partie de cette émission, Néron en Occident, publié dans la Bibliothèque des Idées chez Gallimard. Mais tout de suite, un nouvel épisode de La Fabrique de la Guerre froide, le feuilleton concocté pour nous par Anaïs Quien, épisode 13. On parle aujourd'hui des plans américains et soviétiques sur l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale avec Emilia Robin, chercheur associé à l'UMR IRIS et chargé de recherche à l'association Georges Pompidou.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada
are
all
directly
by this easy power.
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believed in the Soviet system, and here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide.
Le grand Berlin n'est plus que le petit Berlin. Une ville étouffée, paralysée, où sonne le pas des vainqueurs. L'Allemagne saura peut-être maintenant ce que c'est que la guerre. Les plaques des rues ressemblent à des pierres tombales dans un cimetière. Un cimetière où les survivants s'accrochent encore. Ici était le Sportpalast, où aboyait Hitler. Ici était l'église du souvenir, à l'entrée du Montparnasse berlinois. Ici était la chancellerie du Reich, palais de marbre construit tout exprès pour Hitler et qui s'est écroulé sur lui. Mais une grande ville n'est jamais morte. Déjà dans les ruines, une espèce de vie recommence.
En 1946, le sort de l'Allemagne reste au cœur des préoccupations des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Les projets américains et soviétiques opposés s'affrontent par discours interposés à travers les voix de Vyacheslav Molotov et James Burns.
Le métro a déjà repris son trafic, débarrassé des milliers de cadavres qui l'encombraient. Il y a même des autobus.
Molotov, là, en juillet 1946, propose la solution soviétique. L'URSS a été ravagée par la Seconde Guerre mondiale, a eu 20 millions de morts sur une population de 130 millions d'habitants, elle a connu des destructions énormes du fait de l'Allemagne. Par conséquent, un retour du danger allemand et une hantise littérale pour l'URSS. Dans la conception soviétique, l'existence d'un capitalisme puissant en Allemagne a favorisé l'avènement du nazisme. Par conséquent, il faut démanteler l'infrastructure qui a permis l'avènement de ce capitalisme. Donc, il s'agit de contrôler très très étroitement l'ensemble de l'industrie allemande. Comment faire ce contrôle? L'URSS veut absolument que l'industrie de la Ruhr et de la Rhénanie, qui était extrêmement puissante, soit contrôlée directement par les quatre puissances. Ce que les Occidentaux ne souhaitent pas, parce que qui dit contrôle étroit à 4 dit ingérence soviétique dans les affaires intérieures de la zone américaine où se trouve la Rhénanie. Par conséquent, il y a une impossibilité d'accord sur ces questions.
Qu'est-ce qui est nouveau dans ce discours? Pourquoi ce discours fait date?
Le discours a l'air très, très, très modéré dans son expression, mais un certain nombre de concepts sont martelés régulièrement. Par exemple, le retour constant sur le fait que l'Allemagne doit être éprise de paix. expression utilisée. Et prise de paix, on ne sait pas bien ce que cela veut dire. On sait par contre que l'URSS qualifie de fauteurs de guerre les partis qui ne sont pas alliés des partis communistes. Il y a un certain raidissement sur ces questions. Tout parti de droite est soupçonné d'être belliciste. Un autre mot qui revient beaucoup dans le discours de Molotov, c'est l'idée d'une Allemagne démocratique. Mais dans la conception soviétique, il n'y a qu'un seul parti qui permet d'exprimer vraiment les réels intérêts du peuple, qui sinon est aveuglé sur lui-même, c'est le parti communiste. Donc on est dans une impasse.
En septembre 1946, un représentant des États-Unis, James Burns, prononce un discours à Stuttgart qui expose la théorie américaine sur le devenir de l'Allemagne.
Donc on est 2 mois après le discours de Molotov. James Burns, qui est donc secrétaire d'État américain, donc ministre des Affaires étrangères, fait une tournée en Allemagne qui est occupée depuis un an pour faire le point, pour se rendre compte par lui-même de la situation de l'Allemagne. L'on ne souhaite pas une disparition de l'Allemagne. L'Allemagne a une place dans les réseaux économiques, dans les systèmes économiques. Comme on dit, c'était l'usine de l'Europe. Il est important que l'Allemagne ne disparaisse pas en tant que puissance, mais il s'agit de reconstruire progressivement une économie qui assure aux Allemands un niveau de vie comparable à celui des autres peuples européens. Burns le dit explicitement. Il dit explicitement qu'actuellement, le style de vie, le niveau de vie allemand est limité, est frugal, il utilise le terme frugal, mais avec le temps, on va pouvoir envisager un desserrement progressif, une amélioration progressive et contrôlée. Cela va passer en particulier par la fusion économique entre les zones britanniques et américaines. L'un des problèmes de la zone américaine, c'est qu'elle est essentiellement industrielle. Donc, elle a besoin d'importer en particulier des produits agricoles pour nourrir la population, et un système complètement compartimenté d'une zone à l'autre fait que ces biens ne circulent pas, fait qu'il y a donc des pénuries. Les crises économiques, la misère, entraînent les radicalisations qui, elles-mêmes, entraînent la montée des extrêmes, la montée des mouvements revendicatifs et une agitation sociale qui fait le jeu des extrêmes de gauche comme de droite. Les extrêmes de droite ont été décapités, évidemment, par la dénazification. Les extrêmes de gauche sont présents à 200 km, c'est la zone soviétique d'occupation. Par conséquent, pour garantir une stabilité sociale, qui elle-même sera une garantie d'un système démocratique équilibré, paisible, il faut une prospérité économique progressive, contrôlée, mais il faut un redressement économique. Et là-dessus, cela s'oppose complètement à Molotov, qui voulait un démantèlement des grandes industries allemandes pour avoir un système beaucoup plus contrôlé selon les intérêts des puissances occupantes plutôt que selon la question du niveau de vie des Allemands eux-mêmes. Ça fait déjà un an que l'Allemagne a été vaincue, il n'y a toujours pas de solution sur le terrain. L'on craint que l'enlisement n'aboutisse à une situation bancale qui elle-même pourrait dégénérer sur un nouveau conflit.
Voilà pour ce nouvel épisode, épisode 13 de La Fabrique de la Guerre Froide dans La Fabrique de l'Histoire, concocté par Anaïs Quien et Véronique Samouilov. Bonjour Anaïs Quien.
Bonjour.
Vous êtes d'ailleurs avec nous pour interviewer Georges Ming. Bonjour Georges Ming.
Bonjour.
Vous êtes notre invité pour la première partie de cette émission, pour un livre qui est à la fois d'histoire et d'actualité, parce que ce pays est toujours au cœur de l'actualité, en particulier depuis quelques semaines et quelques mois, la Pologne au cœur de l'Europe, de 1914 à nos jours, que vous publiez chez Buchet-Chastel. Alors on pourrait dire que c'est presque, le grand œuvre de quelqu'un qui travaille depuis si longtemps sur la question de la Pologne, comme une sorte de résumé de votre vision de ce qu'est ce pays, et qui n'est pas simplement un livre d'histoire, mais c'est aussi un livre d'historiographie. Vous mélangez les deux d'une certaine façon, puisque vous racontez pour les auditeurs et les lecteurs qui ne connaissent pas l'histoire de la Pologne par le menu l'évolution de ce pays depuis 1914, mais également vous avez toujours des pauses dans ce récit qui sont des pauses réflexives sur comment tel et tel événement dont vous venez de parler, tel ou tel chapitre de l'histoire de la Pologne, a été interprété postérieurement par ceux qui ont eu en charge d'écrire d'une certaine façon, soit politiquement, soit scientifiquement, l'histoire de la Pologne, Georges Ming.
Oui, en fait, j'ai l'intime conviction qu'il faut écrire maintenant les histoires un peu différemment, qu'on ne les fait habituellement en racontant les événements, tout simplement, leur suite. Je crois que Tous les épisodes d'histoire, et en particulier certains épisodes douloureux, sont recyclés dans le présent. Enfin, ça, on le sait depuis un certain temps.
Beaucoup, les usages politiques du passé.
Voilà, le présentisme, etc. Nous avons, en France en particulier, beaucoup d'historiens qui y ont réfléchi. Et je pensais que ça s'appliquerait très bien à la Pologne. Effectivement, c'est un peu, c'est pas l'œuvre de ma vie, mais c'est une combinaison de ce que j'ai fait auparavant avec un regard critique sur la manière de raconter l'histoire.
Dont on écrit l'histoire.
Voilà.
Anaïs Kien.
Oui, et puis vous mettez en valeur aussi cette image très paradoxale de la Pologne, un pays qu'on présente souvent comme obsédé par son histoire, englué peut-être même dans son histoire, et en même temps, à l'aune de ses actions au sein de l'Union européenne, à la pointe de la modernité, de l'originalité, de la créativité, de l'innovation dans ce cadre institutionnel-là. Et ce paradoxe est intéressant. Vous alignez les stéréotypes au début de cet ouvrage pour montrer à quel point on en use pour parler de la Pologne, tout en ne se saisissant pas de ce paradoxe, en n'en faisant rien. Et c'est justement avec ce livre que vous contemporanéisez finalement ce paradoxe, en disant à quel point ces enjeux historiques sont des outils dans le débat politique contemporain.
Oui, je ne voudrais pas héroïser la Pologne. Hein. Je pense que
c'est
l'inconvénient quand on écrit sur un pays, on fait une monographie, on a tendance évidemment à essentialiser. Mais ce qui m'intéressait, c'est plutôt justement le contraire, d'essayer d'universaliser à partir de cette histoire polonaise, qui est effectivement une histoire faite des stéréotypes, des perceptions différenciées, des compétitions pour les narrations. Je voulais montrer comment fonctionne finalement l'histoire dans le jeu politique. Et c'est au fond ça, il y a une sorte de double track dans mon livre. Il y a cette narration événementielle que j'ai vérifiée, bien sûr, je ne suis pas historien, à travers les écrits les plus up-to-date aujourd'hui. Et d'un autre côté, j'ai regardé ça sous forme de qui fait quoi avec cette histoire. Mmh. Et ça donne évidemment un tableau qui éclaire beaucoup la Pologne d'aujourd'hui.
Oui, c'est d'ailleurs très intéressant que vous citiez Maria Dąbrowska à un moment qui dit que la Pologne est habitée par deux nations. Parce que c'est un peu la thèse que vous faites avancer dans votre livre, Georges Mink, et dans ce livre sur la Pologne au cœur de l'Europe, chez Bûcher-Chastel. C'est que vous dites, voilà, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui voudrait se caler sur le territoire polonais, qui voudrait y rester. Puis il y a une tendance qui est plus extensive, pourrait-on dire. D'ailleurs, elles ont alterné dans le gouvernement de la Pologne depuis le début du XXe siècle, ces tendances-là. Et ces deux tendances sont à la fois opposées, mais en même temps donnent une sorte de dynamisme à ce pays.
Alors, je ne sais pas si l'histoire, c'est ça. Ce que je sais, c'est que ce sont des représentations de cette histoire qui donnent cela, c'est-à-dire une sorte de dualité de l'histoire polonaise, et qui se construit autour de deux personnages historiques qui ont contribué largement à l'indépendance de la Pologne. Il ne faut pas oublier que la Pologne était longtemps occupée par trois pays, trois empires, et que les Polonais n'ont jamais perdu l'espoir d'obtenir l'indépendance. Et deux chefs, en quelque sorte, de la nation polonaise, chacun à sa manière et avec sa propre conception, se sont battus pour cette indépendance. Et jusqu'aujourd'hui, ces deux chefs, c'est Joseph Piłsudski, le maréchal Piłsudski, une sorte de De Gaulle.
Maréchal président.
Voilà, une sorte de De Gaulle, disons, polonais. Et à côté de lui, Dmowski, qui lui est connu plutôt pour sa composante antisémite dans son programme. Mais au début, c'était quelqu'un qui avait une conception qui consistait à montrer comment on trouve l'autodétermination de la Pologne dans le contexte international. C'est un grand diplomate qui a participé à la conférence de Versailles. Autour de ces deux personnages avec deux stratégies différentes, l'un romantique, l'autre positiviste, l'un au point, l'autre en négociant.
Le romantique, c'est Piłsudski.
C'est Piłsudski. Et Dmowski, c'est le diplomate, ouais, négociateur.
Positiviste.
Bien sûr, entre eux, ils se combattaient. Et aujourd'hui, autour de ces deux personnages, il y a énormément de représentations qui mobilisent d'ailleurs les énergies politiques.
Anaïs Kien.
Et qui mobilisent ces énergies politiques chaque année autour d'une date notamment de commémoration, celle du 11 novembre, qui continue à faire problème comme date nationale de commémoration de cette première guerre.
Tout à fait, parce que les partisans de la conception, Pilsudski considère que l'indépendance de la Pologne correspond au 11 novembre 1918, c'est-à-dire le jour où Pilsudski envoie aux alliés un télégramme disant « la Pologne vient de renaître ». Et les partisans de Dmowski considèrent que c'est plutôt 1920-21, c'est-à-dire les résultats de la conférence de Paris. Mmh. Et effectivement, ces deux conceptions se combattent autour de la date. Mais il y a évidemment d'autres. Il y a deux écoles d'historiens, d'ailleurs, qui chacune bâtit la légende de l'un de leurs principaux héros.
Oui, alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous parlez d'héroïsme, mais en même temps, c'est un pays très particulier qui a tendance, dites-vous, à plus souvent célébrer ses défaites, défaites glorieuses toujours, gloire aux vaincus, que ses victoires, et que l'unique insurrection victorieuse, dites-vous, de la Pologne, de l'histoire de la Pologne, c'est en février 19, dans le cadre justement de la Grande Pologne, un départ d'insurrection du côté de Poznan en 1918 et puis donc la réussite de 1919. Mais vous dites, voilà, on célèbre la plupart du temps des défaites, des insurrections, des levées en masse qui ont toujours conduit à des échecs, Georges Mink.
Oui, une partie de la scène politique polonaise effectivement a tendance à jouer les souvenirs douloureux
des victimes,
le grand soulèvement qui s'est terminé par une grande tragédie, l'écoulement du sang, etc. Et l'autre partie de la scène politique considère, et c'est effectivement le problème de ce jeu entre la modernité et une sorte d'histoire rétrograde ou représentation de l'histoire rétrograde, c'est justement cette compétition. Qu'est-ce qu'est la Pologne aujourd'hui réellement? Est-ce que c'est un pays moderne comme les autres pays de l'Union européenne, voire même un peu plus, parce que animé d'un punch, d'une énergie européenne extraordinaire? Et de l'autre côté, des gens qui disent attention, l'Union européenne, en fait, c'est la dilution de notre identité nationale. Et notre véritable identité nationale est construite autour de ces grands soulèvements qui étaient malheureusement des échecs, mais qui étaient néanmoins le signe que la Pologne pouvait survivre à toutes les difficultés.
Anaïs.
Et justement, lorsqu'on regarde ces deux groupes d'arguments, quels sont finalement les effets de ces enjeux mémoriels lorsqu'ils sont utilisés à cette dimension des relations internationales, Georges Mink?
Alors les effets sont considérables. Moi, j'aimerais bien rappeler, justement, comme ça a été fait dans l'introduction, la situation actuelle. Et vous savez que l'actuel président de la République de Pologne, Andrzej Duda, a été élu sur un programme de retour à la vraie histoire. Il considère que tout ce qui a été fait jusqu'ici, y compris l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne, ça a été tout simplement dirigé contre l'identité polonaise. L'identité polonaise a perdu tout son poids, elle s'est diluée, elle n'existe plus. Or, la Pologne héroïque doit être appelée aux Polonais. Les Polonais devraient être dignes de leur histoire. Et donc, il a proposé non seulement le retour à la vraie histoire, mais aussi tout un réseau institutionnel du retour à la vraie histoire. Par exemple, il considère qu'il faut, et il va le faire sans doute, qu'il faut créer un institut qui poursuivra les soi-disant négationnistes, mais en réalité, ses ennemis politiques.
Mais il y a déjà un institut de la mémoire nationale
qui existe,
depuis 1990.
Dont les prérogatives vont être encore augmentées, qui cumule l'essentiel du budget destiné à la construction des images historiques en Pologne, à l'histoire et son récit. Mais il y aura d'autres instituts, au moins 3 ou 4, dont ça ressemblera un peu à Orwell, parce qu'il y aura par exemple un institut dont la tâche principale sera de poursuivre les gens qui disent à l'étranger des choses qui sont contraires à la vision officielle de l'histoire.
Faites attention, parce que vous êtes à l'étranger.
Je sais bien, mais ce livre circule en Pologne, bien entendu. Et puis en Pologne, je suis connu pour mes positions.
Oui, alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous prenez épisode par épisode cette histoire de la Pologne et que, comme je le disais au tout début, vous regardez le destin mémoriel de chacun de ces épisodes. Première guerre mondiale, création de la Pologne indépendante, combat entre Pilsudski et ses adversaires, arrivée du régime de l'assainissement, coup d'État, voilà. Et puis ensuite, effectivement, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, le partage du pays, les insurrections du ghetto d'abord, insurrection de Varsovie ensuite, mais également la tragédie de Katyn et son destin mémoriel. Et on s'aperçoit qu'effectivement, eh bien, tous ces événements qui ont lieu tous les 5 ou tous les 10 ans ont donné lieu à des récits contradictoires, à des récits qui permettent par exemple encore aujourd'hui de dire quand l'avion du président polonais s'écrase en allant justement en Russie pour célébrer, entre guillemets, commémorer Katyn, eh bien Katyn continue, la liste des victimes s'allonge, Georges Mink.
Oui, mais je pourrais raconter une histoire. Il y a à Varsovie, un musée de l'insurrection de Varsovie qui a été un musée construit par le président défunt Lech Kaczynski, qui lui est partisan justement de cette vision héroïque et douloureuse en même temps de l'histoire de la nation, Christ des nations, la Pologne éternelle. Et, dans ce musée, il y a un petit département consacré à Katyn et c'est fait de façon très astucieuse puisqu'on a ramené de la terre de la forêt de Katyn, on a la sensation des odeurs de la forêt de Katyn. Et puis on voit en toile de fond un film, le célèbre film de Vajda Raïda sur Katyn, mais seulement la dernière scène, celle de 5 minutes où on tire dans les têtes des officiers polonais. On sort de ce... C'était au moment justement de la catastrophe de Smolensk. On sort de cette partie, de ce département, et puis... Mais en rentrant, on voit évidemment des petites photos d'identité de tous ceux qui ont été tués à Katyn, donc une vingtaine de milliers d'officiers intellectuels, etc. Et on sort de ce de cette première partie et on tombe sur le même format des photos de l'avion de Smolensk, au milieu évidemment la tête du président et de sa femme, et en bas, Katyn continue, Katyn 2. Et évidemment, les excursions scolaires passent, et on leur raconte ça, et ça rentre dans la tête des jeunes, et il y a eu une terre Oni pour les Polonais, maudite, qui a toujours eu son tribut de victimes polonaises, voilà.
Anaïs Kien.
Lorsqu'on lit votre livre, Georges Mink, on voit la densité des chantiers en cours, des densités d'histoire et de mémoire de cette fabrique de l'histoire polonaise. Parmi ces chantiers-là, il y a eu une onde de choc il y a quelques années avec l'apparition du livre de Yann Gross, Les Voisins, sur la part de certains Polonais dans l'exécution, dans le massacre d'une partie des Juifs de Pologne. Où en est-on aujourd'hui? Cette onde de choc a énormément fait parler, a énormément fait débattre, de manière très conflictuelle même. Qu'en est-il aujourd'hui, Georges Mink?
Le débat, évidemment, continue. Il a été ranimé par les dernières élections polonaises parce qu'on considère que Jan Tomasz Gross est un traître à la nation.
Tout le monde ne le considère pas, tout de même.
Pas tout le monde, non, mais justement les vainqueurs des dernières élections qui ont gagné, entre autres, grâce à cela. C'est-à-dire à cette idée qu'il y a des ennemis de la nation polonaise qui veulent représenter l'histoire uniquement comme si les Polonais étaient des bourreaux, en oubliant que les Polonais étaient surtout des héros et des martyrs.
D'où le projet de création de cet institut censé
absolument, absolument, parce que ce qui énerve cette partie, en tout cas, de la scène politique, c'est qu'on dise à l'étranger, et souvent c'est dit par ignorance, tout simplement, les camps polonais. Ça, c'est, les Polonais ne supportent pas cette idée. Et ils ont raison d'ailleurs.
On peut le dire d'ailleurs parce que j'ai moi-même été rappelé à l'ordre un jour où j'avais commis cette erreur.
Parce que tous les ambassadeurs ont pour tâche, et maintenant il y aura cette institution spéciale qui va poursuivre judiciairement à l'étranger tous ceux qui commettront cette erreur historique, qui est en effet une erreur.
Il faut dire donc les camps nazis sur le territoire de l'ancienne Pologne. C'est ça la bonne terminologie. C'est ça.
Ce qui s'explique d'ailleurs très bien pourquoi les Allemands ont installé des camps là et pas ailleurs.
Tout de même, ce qui est fort intéressant, c'est dans votre livre, donc La Pologne au cœur de l'Europe, chez Buchet-Chastel, Georges Mink, c'est que vous concluez par une sorte de réflexion sur l'histoire et les usages de l'histoire dans la politique, puisque vous êtes sociologue et politiste vous-même, et vous dites tout compte fait, peut-être le terme de lieu de mémoire tel qu'il a été instauré par Pierre Nora ne convient-il pas forcément, alors qu'il y a des lieux de mémoire germano-polonais qui sont parus il n'y a pas si longtemps que cela. Peut-être faudrait-il parler de gisement mémoriel,
oui,
comme d'un stock de ressources recyclables dans les enjeux politiques du présent. Moi je parle généralement du magasin des accessoires, c'est un peu la même chose, c'est un stock aussi, c'est-à-dire comment va-t-on convoquer tel ou tel fait historique pour la politique aujourd'hui en Pologne, Georges Mink?
Tout à fait. On peut même parler des stratégies d'historicisation, c'est-à-dire que les politiques savent que certains épisodes de l'histoire sont extrêmement rentables dans les usages politiques, dans les compétitions politiques.
Et vous dites même qu'ils savent dénicher la douleur mémorielle et la réactiver.
Tout à fait. Et là, on parle évidemment d'un certain type de mémoire, la mémoire réactive. On appuie sur le bouton et ça suffit, ça marche. C'est précisément, par exemple, catégne. Catégne est quelque chose, une sorte de douleur profonde. Et lorsqu'on parle de catégne...
On peut le comprendre.
Oui, bien entendu, c'est légitime, bien entendu. Mais en même temps, ce n'est pas seulement un monument sur lequel on retrouve son identité à la manière de lieu de mémoire de Pierre Nora, c'est aussi quelque chose qui permet de parler de Katyn 2, Katyn 3, Katyn 5, Katyn 10, donc animer en permanence des compétitions politiques.
Anaïs Quin.
Et étant donné le contexte, étant donné ce qui se passe juste à la frontière de la Pologne, cette annexion de la Crimée par la Russie, on imagine aussi que la Pologne, ou en tout cas que les groupes polonais qui s'occupent d'histoire, tentent d'anticiper un petit peu certaines attaques historiennes, historiques, qui pourraient être faites par la Russie sur ces bases de l'actualité géopolitique.
C'est évidemment très complexe parce que les Polonais ont des contentieux avec l'Ukraine aussi. Et il y a eu quand même le massacre de Voligny et en contrepartie de cela, le massacre, l'action Vistule, c'est-à-dire le déplacement des Ukrainiens de leur territoire vers l'ouest par les Polonais en guise de revanche. Donc ça travaille évidemment en permanence et ça constitue un de ces gisements mémoriels. Alors évidemment, la Russie, l'Ukraine, c'est quelque chose d'autre encore. C'est le souvenir douloureux évidemment de l'occupation russe, les Russes qui s'approchent de la frontière polonaise de plus en plus. Et les Polonais redoutent évidemment qu'ils occupent l'Ukraine tôt ou tard ou qu'ils la vassalisent de façon à avoir avec la Pologne une large frontière, pas seulement Kaliningrad, mais une très très longue frontière et donc un danger imminent pour la Pologne. Et donc évidemment c'est un thème très réactif, il suffit de parler de la Russie, la russophobie est très présente, mais à côté de cela il y a quand même des courants positifs qui considèrent qu'il faut se réconcilier, reprendre l'histoire, là où on l'a laissé de deux côtés, en Russie et en Pologne, il y a une commission d'historiens polono-russes qui travaille sur ces épisodes douloureux de l'histoire entre les deux pays, en faisant un peu une sorte de procès-verbal de ce qui s'était dit en deux colonnes, convergence, divergence et signature commune.
Dernière question peut-être à vous, Georges Mick, qui êtes autant français que polonais. Est-ce que vous n'avez pas toujours eu en tête, en écrivant ce livre, la situation française? Parce que je me dis, parfois, quand on lit ce pays obsédé par les défaites, et c'est vrai que la France a été assez longtemps obsédée par ses défaites, les vaincus glorieux de 1940 ou Alésia bien auparavant, on se dit, il y a des parallélismes qui sont intéressants. Et puis ce conflit d'histoire et de mémoire, cette mémorialisation, j'étais étonné hier d'entendre dire que la statue de la République à la place de la République était désormais un mémorial. Je ne savais pas que c'était devenu un mémorial, mais ça l'est devenu pour la presse, en tous les cas. Tout ça, ça m'a paru intéressant dans cette comparaison entre les deux pays, Georges Ming.
Oui, parce que je pense qu'au fond, la méthodologie de mon travail concerne une sorte de conception universelle. Et quand on regarde l'histoire française récente, les compétitions politiques récentes, quand on pense à la manière dont Sarkozy a essayé d'arracher une partie de l'héritage aux communistes ou aux socialistes avec la lettre de Guy Môquet ou Jaurès, on voit bien que ces gisements mémoriels existent et qu'on peut les réactiver pour des victoires électorales.
On vous remercie beaucoup, donc Georges Ming, pour ce livre qui s'intitule « La Pologne au cœur de l'Europe de 1914 à nos jours », publié chez Buchet-Chastel.
France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
h 35 dans la Fabrique de l'Histoire. Ce matin, nous poursuivons notre émission de ce lundi et nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui traite aussi effectivement de la question des usages politiques d'un personnage historique et non pas d'un pays, à savoir Donatien Gros. Il est auteur de Néron en Occident, une figure de l'Histoire, qui vient de paraître dans la collection Bibliothèque des Idées chez Gallimard. Alors, c'est vrai que on vous avait placé là plutôt qu'un autre lundi ou un autre vendredi, Donatien Gros, en se disant, tiens, on va parler de Néron en ouverture de la la semaine sur la sexualité et son histoire, parce qu'évidemment, l'image que l'on a gardée de Néron, c'est celle effectivement du perverti, du pervers et de celui de l'incestueux Néron dans ce premier siècle après Jésus-Christ. Et en fait, quand on vous lit, puisque ce livre est un livre sur le destin mémoriel de Néron jusqu'à nos jours, pourrait-on dire, la façon dont les usages littéraires et politiques se sont emparés du personnage, eh bien on s'aperçoit que ça n'est pas le cas dans l'Antiquité et que c'est très tardivement, effectivement, que Néron est devenu cette figure que l'on accoquine, pourrait-on dire, à cette question de la sexualité.
Je vais vous répondre en trois points. Premier point, je voudrais exprimer ma très profonde sympathie intellectuelle envers tout ce que vient de dire Georges Minc. Parce que je crois qu'effectivement, il n'y a pas d'histoire sans pensée de l'histoire et sans réflexion sur ce champ qu'est une pratique historiographique qui devrait se définir aujourd'hui face à deux impossibilités. Le positivisme du part, nous racontons les événements de l'histoire tels que nous savons qu'ils ont eu lieu, et d'autre part, la déconstruction, qui s'est aussi manifestée être une impasse. Et donc, le travail que vous avez fait sur la Pologne est une sorte d'horizon, parce que c'est un horizon vraiment politique, c'est un horizon des textes, un horizon vraiment politique, avec lequel je me sens en très très profonde sympathie. Deuxième point. La question de l'histoire de Néron. Une chose que j'ai voulu faire justement entre déconstruction et positivisme, c'est de m'intéresser à la figure de Néron, pas le personnage, mais figure. Et la figure telle qu'elle se, non pas telle qu'elle est, c'est pas une étude de réception, puisque la réception commence avec Néron lui-même. Oui. C'est-à-dire que Néron lui-même est déjà une créature de discours.
Oui, bah parce que il a pris le bon exemple d'Auguste et qu'il a très bien compris qu'Auguste avait sculpté sa figure et sa statue en même temps qu'il était en train d'agir.
Tout à fait. Mais je pense, et là on arrive presque à la question de la sexualité. C'est la question qui est derrière ça, c'est la question de l'individu au pouvoir, c'est-à-dire de la personne qui a une vie intérieure, qui a des passions, qui est un individu, encore une fois c'est très important, qui est un individu et qui donc, étant un individu, peut avoir une sexualité. Parce que la sexualité est, comme l'a très bien montré Foucault, l'écart que l'individu ménage par sa sexualité, c'est-à-dire par son corps, dans les normes de gouvernement. Et donc le problème de ça, de cette conception, et c'est pour ça que Foucault commence son premier volume sur la sexualité, avant de redescendre dans l'Antiquité, c'est que c'est une conception moderne. Et donc, le problème, c'est que poser la question d'une sexualité de Néron, le terme de sexualité n'existant pas en latin.
Ouais, bien sûr.
Le sexe existe, mais le terme est employé aussi bien pour les plantes que pour les hommes. Et c'est un terme rare, relativement rare. Et donc, sachant poser cette question en ces termes, c'est se dire Néron est une personne, ce Néron avait une sexualité, s'il couchait avec sa mère, ce dont nous n'avons aucune preuve, mais mettons que, eh bien c'est parce qu'il avait des envies bizarres, et ça a donné lieu effectivement à toute une tradition, mais quand on regarde la figure impériale, on se rend compte tout d'abord que ce vice de Néron intervient, c'est d'ailleurs assez légitime, immédiatement après la rupture de 69, c'est-à-dire l'année des quatre empereurs, c'est-à-dire la fin de la première dynastie. Donc, et c'est un retournement de l'image qui a été donnée sous son règne.
Ce que vous racontez, effectivement, c'est cela. C'est-à-dire, c'est comment on constitue, grâce aux hommes de lettres qui sont autour de soi quand on est un empereur, on constitue une image, on la crée, mais pas simplement les hommes de lettres, parce que vous insistez beaucoup sur la numismatique, sur la façon dont on se représente sur la monnaie qui circule dans tout l'Empire. Il y a la façon dont on construit son personnage, d'une certaine façon, et puis ensuite, parce qu'il y a un retournement, alors on construit son personnage contre celui qui vous a précédé, généralement, c'est ce qui s'est passé pour lui, Claude en particulier, en sautant par-dessus Claude pour aller du côté d'Auguste et réattribuer les attributs d'Auguste. Et puis, une fois qu'on est tombé, qu'on meurt, eh bien, immédiatement, les successeurs vont faire la même chose avec vous, d'une certaine façon. Et l'Octavie, par exemple, ce texte qui succède à la mort de Néron, est un texte qui, d'une certaine façon, détruit immédiatement tout ce que Néron avait voulu construire dans les mots.
Vous avez dit tellement de choses, j'ai du mal à tout reprendre. commençons par le début, sur les documents du pouvoir. Effectivement, il y a ce qui m'a intéressé, c'était de voir comment toute une série de représentations, et encore ensuite dans le cours de l'histoire, donner une image. Et cette image qui est très cohérente, au fond, l'image donnée sous le règne de Néron est extrêmement cohérente.
Et il n'y a pas de place d'ailleurs pour la perversion.
Absolument
etc.
pas, c'est l'inverse. L'empereur parfait. C'est pour ça que la perversion est le contraire de l'empereur parfait. Et ça se manifeste à travers toute une série de médias. Mais je voudrais prendre juste un exemple et après je vais poursuivre sur ce que vous disiez. C'est la fameuse inscription d'Acraïphia. Le discours de la liberté aux Grecs prononcé à Corinthe.
En 67.
Effectivement. Ce discours, nous en avons l'inscription qui a été publiée par Maurice Solon en 1886. Et cette inscription, l'empereur parle et dit « Moi, empereur, je vous donne à vous, les Grecs, un don que... » Maurice Solo, appartenant à la fin du 19e siècle, dit, mais c'est, comme l'a dit encore récemment Glenn Bowersock dans la New York Review, ce Néron, c'est normal, c'est un mégalomane, c'est un égomane, il parle de lui à la première personne, c'est pas comme ça qu'on fait. Pas du tout. Il est un souverain hellénistique. Le souverain hellénistique va dans sa province, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, symbole du pouvoir, je vous. Donc ça, c'est une chose sur la lecture de l'histoire. Une deuxième chose sur les sources. Et après, je vais reprendre sur l'Octavie. Sur les sources, ce qui est très intéressant, et ça, c'est un point aussi de décalage avec Foucault, c'est que l'un des problèmes, l'une des crises du texte de Foucault, c'est le rapport de Foucault aux matériaux. Foucault a un rapport d'abord aux matériaux littéraires, puis ensuite à l'archive, qui vient suppléer le matériau littéraire. Et ce que j'ai essayé de faire, c'était aussi de voir comment, en particulier dans cette époque-là, tous les matériaux étaient bons pour construire cette image. Et là, je crois qu'il y a un petit décalage avec, effectivement, cette histoire essentiellement conceptuelle et philosophique, comme il le disait lui-même, que propose Foucault. Et le troisième point sur l'Octavie. L'Octavie est un texte absolument extraordinaire.
Un texte qu'on a longtemps attribué à Sénèque, mais qui ne peut pas être de Sénèque, en l'occurrence. Mais, et ce texte-là est un démolissage, en règle.
C'est exactement le retournement de ce que Sénèque, pardon, lui-même, dit dans le Declamentia et l'Apocolocintos, qui sont deux textes du début du règne de Néron. Et donc, tout est bon. Et tout se fixe là.
C'est la fabrique du tyran, dites-vous.
Exactement. Parce que, notamment, l'incitius, ce terme très intéressant, ça veut dire le mauvais griffon. Et là, on a le cœur du problème. On a le cœur de cette question de la sexualité. Qu'est-ce que c'est que l'incitius? C'est celui qui n'appartient pas à l'arbre sexus, le sexe des plantes, le sexe des êtres humains. Et donc Néron, dont tout le système du pouvoir était qu'il était le dernier descendant du sang d'Auguste, n'est pas un descendant du sang d'Auguste. Et donc il n'appartient pas à cette norme du pouvoir qui a été instauré par Auguste, notamment avec Livie, dont il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'il l'avait enlevée quand elle était enceinte d'un enfant pour la prendre pour lui.
Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous expliquez que cette construction lente, justement, du pervers, du dégénéré, etc., va mettre beaucoup de temps. Enfin, ça n'est pas dès le premier siècle. Alors, il y a effectivement ce texte de l'Octavie, mais très rapidement, il y aura ensuite, évidemment, Suétone et Tacite qui vont rajouter leur grain de sel, Dion Cassius. Et puis, le IVe siècle, dites-vous, on va avoir l'image du prince dégénéré, puis ensuite, la perception de Néron comme souillure. C'est-à-dire que c'est une construction lente sur deux ou trois siècles de ce personnage comme étant vraiment une tache, pourrait-on dire, dans la suite des empereurs romains.
Tout à fait. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette figure s'est consolidée. C'est-à-dire que quand on... Justement, et là, c'est l'anachronisme qu'ont fait les modernes, vous savez, c'est la fameuse phrase de Burckhardt, l'individu moderne est né en 1485. On ne sait pas pourquoi 1485, mais 1485. À la fin du 15e, au début du 16e siècle, quand se constitue l'historiographie moderne avec la redécouverte de Tacite, ces textes qui, en fait, étaient le détournement et le retournement du discours du pouvoir, donc qui était un discours du pouvoir inversé, qui ne disait pas, qui en gros faisait de Néron l'inverse du pouvoir parfait, Néron devient une personne. Donc c'est cette personne, et nous, aujourd'hui, plus qu'au début du XXIe siècle, nous sommes encore tributaires de ce que les modernes ont élaboré à partir de ces textes qui retournaient en discours du pouvoir, eux-mêmes un discours du pouvoir.
Mais avant les modernes, il y a, et vous insistez là-dessus, la présence des chrétiens, l'arrivée des chrétiens au pouvoir à partir de Constantin, le discours des chrétiens, qui rajoute des données nouvelles, enfin plutôt qui met qui attribue à Néron des tâches nouvelles sur sa personnalité. Alors, certains avaient inventé qu'il avait rapté une vestale, par exemple. Alors ça, c'était effectivement dans un crime antique, comme un crime vraiment terrible, ce rap de vestale. Mais eux, ils se disent, tout qu'on fait, les persécutions de chrétiens vont pouvoir se rajouter au dossier Néron, dites-vous, Aurélien Gros. Donatien Gros.
Aurélien, ça me va, c'est un très bon empereur romain. Mais en tout cas, pour revenir à... Oui, je suis entièrement d'accord. Mais ce qui est intéressant, et je voudrais insister là-dessus, c'est que le Néron des chrétiens, le premier persécuteur, ouais. Mais qui est aussi un Néron judaïque, puisque c'est le destructeur du temple. Mm. C'est celui qui a donné à Titus et à Vespasien l'ordre d'aller en Judée réprimer la rébellion. Mm. Ce Néron-là n'est pas une personne. C'est-à-dire que il accumule, on le voit très bien dans les premiers textes, il est l'antéchrist. D'ailleurs, vous savez qu'on dit parfois que le chiffre de la bête, l'antéchrist, 666, ce sont les lettres du nom de Néron additionnées en numérologie talmudique. Mmh. Donc ce Néron-là, c'est le terme grec, c'est le miaron, l'impur. Et donc c'est pas, et là je voudrais insister là-dessus, parce qu'effectivement c'est dans votre interrogation qui s'ouvre demain autour de la sexualité, ce n'est pas une personne qui accomplit ses vices, c'est l'incarnation de l'impur qui se manifeste dans le monde, ce qui est exactement l'inverse.
Mmh. Et donc vous dites erreur des humanistes, erreur de la Renaissance justement sur la figure de Néron, mais néanmoins c'est celle-ci qui nous est restée, c'est cette figure-là. C'est-à-dire ce que vous faites, c'est de nous raconter cette généalogie, cette construction très alambiquée de la figure de Néron tout au long du temps, mais il est difficile, peut-être votre livre parviendra-t-il à nous faire revenir à ce premier Néron, le prince parfait, tel qu'il le voulait, avec tous ceux qui écrivaient comme Sénèque à son service, pourrait-on dire. Mais c'est assez difficile de remonter le cours du temps.
Je crois que nous avons la chance, depuis la fin du XVIIIe siècle, déjà Cardan l'avait annoncé en 1562 avec son éloge de Néron, mais à partir de Le Nain de Tillemont se développe une historiographie moderne des mondes anciens. Et ce livre n'en est que l'héritier tardif, si vous voulez. Avant moi, il y a eu tellement d'auteurs importants, de Hermann Schiller en 1872, qui dédie son livre à Mommsen, en passant récemment jusqu'à Edward Champlin, qui a fait une biographie magnifique de Néron. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux possibilités d'aborder l'histoire de Néron comme Néron. Une possibilité, c'est l'histoire des faits. Ceci s'est passé sous le règne de Néron. Et Schiller l'avait très bien compris, qu'il écrivait une histoire du règne de Néron, et non pas une histoire du... En allemand, c'est Kaiserreich, donc c'est l'Empire et c'est le règne. Et ça, c'est une manière de faire. Nous écrivons l'histoire du règne, les événements. Il y a eu la campagne, Corbulon, l'incendie de Rome, persécution des chrétiens, la fin de guerre. Une autre manière, qui est héritée encore récemment de ce qu'a fait Paul Zanker pour Auguste, c'est d'écrire une histoire des images. Et les deux sont mêlés. Et ça, je suis en totale sympathie avec Jean Gemming, parce que ces deux histoires-là doivent se conjuguer. Et justement, cette histoire...
Il ne faut pas faire l'un sans l'autre, selon vous. C'est-à-dire que l'un va avec l'autre. Il faut qu'on marche ensemble et non pas faire une partie séparée et puis faire l'autre partie à part.
Si vous voulez avoir... Après, ça dépend de ce qu'on veut. Oui. C'est-à-dire que si on veut faire une histoire des mentalités... grand genre, on peut faire sans les faits, mais en les reliant, en créant des petites connexions. Si on veut faire une histoire des faits, on peut la faire aussi. Mais si on veut faire une histoire qui soit une histoire...
Et son miroir, d'une
certaine façon. En permanence. Parce qu'il n'y a pas d'histoire, on l'a très bien appris, et Pierre Nora l'a montré beaucoup mieux, sans doute, que nous deux, avec tout le respect que j'ai pour vous, Georges Hemming, que toute histoire n'existe qu'à partir du moment où elle est une pensée de l'histoire en même temps. Pourquoi ? Parce que l'histoire est un discours politique, pas forcément un discours sur notre présent directement, mais un discours par rapport auquel nous nous positionnons, qui crée un écart, par rapport auquel nous devons, comme l'avait déjà d'ailleurs très bien montré Sainte-Beuve, avant Pierre Nora, être intelligent, penser, exister. Et donc cet écart-là, c'est justement ce que propose l'histoire. Et donc une histoire qui ne serait pas réflexive, qui ne serait pas ou directement ou indirectement réflexive, n'est que perte et que ruine de l'âme, comme l'a dit un humaniste, justement, qui a d'ailleurs parlé de Néron.
Et justement, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que vous nous montrez, par exemple, la naissance du Néron artiste aussi, qui est une autre figure de Néron, qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, parce que ça n'est pas effectivement là-dessus qu'insiste la plupart des livres ou des revues qui parlent de Néron, mais cette naissance du Néron artiste montre une autre facette, ça c'est plutôt le 18e et le 19e siècle, une autre facette du personnage, telle qu'on voulait les voir, les gens du 18e et du 19e siècle.
Qui est d'ailleurs un Néron polonais, rappelons-le. Tout à fait. Je pense que là, on revient à cette question de la sexualité. Vraiment, on est au cœur. Parce que à ce moment-là, Néron a une sexualité. Néron est une personne. Néron est l'incarnation de la personne hyperbolique.
De l'individu.
De l'individu qui existe.
De l'individu qui a une intériorité aussi.
C'est ça, tout à fait. Et la version tardive, décadentiste de ça... Covadis,
ouais.
Ce personnage avec son intériorité, le film, pas le livre qui est très beau, et le film est très beau aussi, et de ce personnage qui a une intériorité gênée, problématique, et donc c'est l'incarnation du malaise de l'homme moderne.
Oui, et donc ça veut dire que cette figure à multiples facettes, parce que c'est quand même cela que vous montrez, c'est qu'un même personnage peut avoir donné, avec des sources qui sont quand même très très minuscules, pourrait-on dire, parce que on n'a pas, pour Néron, la somme peut-être des sources qu'on a pu avoir sur Auguste ou sur d'autres empereurs romains, avec ces sources relativement minuscules, relativement peu nombreuses, parce qu'il n'est pas resté aussi assez peu de temps au pouvoir. Combien c'était 14 ans.
Il est resté 14 ans.
14 ans au pouvoir, entre 17 ans et 31 ans. Eh bien, avec ces sources minuscules, on arrive tout de même à composer un personnage extrêmement multiple comme celui que vous nous décrivez dans votre livre, Donatien Gros.
Tout à fait. Tout d'abord, il y a une différence profonde entre mon estimé voisin Georges Minck et moi-même, c'est que Georges Minck traite de sujets récents. Donc du matériau, il y en a. Nous, on n'en a pas. On en a très peu. Donc on doit reconstituer. Donc cette reconstitution passe ou par la psychologie ou par l'analyse des discours. Et surtout ce qui m'a intéressé avec Néron, et c'est un peu, c'était à la fois une intuition que j'avais, ça a été la conclusion, c'est que Néron nous permet de penser à l'Occident. C'était d'où ce titre. Parce que je crois qu'il n'y a pas un grand mouvement de l'Occident qui n'apparaisse pas au miroir de Néron. Le judaïsme, le christianisme, la réforme, la fameuse question rhétorique de Luther, Néron est-il le Messie? Et jusqu'à la crise atomique...
La crise atomique, alors...
La Salvador Dali. La décomposition nucléaire au portrait de Néron, Salvador Dali.
Oui.
Le communisme, le nazisme, l'ordre Néron. Et jusqu'à le développement du savoir et même notre société de consommation. Donc toute notre civilisation se reflète à ce grand genre antique qu'est le miroir du prince.
Et qui est donc le miroir du prince et les vies des empereurs en l'occurrence, parce que c'est cela aussi.
Oui, mais avec Néron, il y a quelque chose de particulier. Parce que Néron, c'est pas simplement la vie des empereurs. C'est la vie c'est une incarnation de la tension politique est donc humaine. Donc les empereurs, parce que si on prend la vie de même de Caligula, même de Auguste, même de Tibère, sans parler de ceux qu'on connaît moins bien, eh bien il n'y a pas une telle densité parce que aussi historiquement le règne de Néron était un moment de transition qui annonçait la suite de l'Empire.
Merci Donatien Gros. Je rappelle que votre livre qui vient tout juste de sortir dans la Bibliothèque des Idées chez Gallimard s'intitule Néron en Occident, une figure de l'histoire. Et on a compris en vous écoutant que le sous-titre était aussi important que le titre. Merci beaucoup et bonjour Delphine Saltel.
Bonjour.
Vous avez préparé les trois émissions qui viennent avec nous, donc sur l'histoire de la sexualité. On a compris que la sexualité n'existait pas à Rome. Mais pourtant, on en parlera jeudi, puisque ça sera le thème de notre discussion de jeudi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'était l'apprentissage du sexe à Rome pour les garçons et pour les filles. On en discutera avec trois historiennes qui nous rejoindront à cette occasion-là. Mais vous êtes là aussi pour nous parler du documentaire que vous nous proposez demain et qui est un documentaire sur une histoire bien plus récente.
Oui, puisque on a essayé de raconter la naissance de la sexologie clinique en France à la fin des années 60. C'est une époque où de jeunes médecins qui étaient psychiatres ou gynécologues entendent de plus en plus dans leurs consultations des patients qui osent soulever le voile sur leurs difficultés sexuelles, ce qui ne va pas dans leur couple, au lit, dans leur vie conjugale. Parce qu'il y a sans doute un relâchement des mœurs qui fait que de plus en plus c'est possible de parler de ça. Et à cette époque, ces jeunes médecins ne sont pas du tout formés.
Ils cherchent des outils d'une certaine
manière. En matière de sexualité.
De comprendre.
Ils ont à peine quelques cours d'anatomie sexuelle au cours de leur formation. Et ils cherchent des réponses concrètes et efficaces parce qu'il est en train de passer dans les mœurs quand même l'idée que la sexualité peut et même doit être une source de plaisir. Et a un rôle dans l'épanouissement de chacun et dans la solidité des couples aussi. Et donc, il décide d'aller chercher, parce qu'à l'époque, c'était la psychanalyse qui dominait en matière de sexualité. Le discours de la psychanalyse régnait en maître. Et pour un certain nombre de dysfonctions sexuelles, comme l'absence d'orgasme chez les femmes ou les problèmes d'éjaculation rapide chez les hommes, la psychanalyse n'était pas d'un grand secours. Et il se tourne du coup vers les États-Unis d'Amérique, puisque dans ces années-là, aux États-Unis, il y a toute une série de grands travaux scientifiques révolutionnaires sur la sexualité humaine. En 1966, William Masters et Virginia Johnson, qu'on connaît bien si on est addict à la série Masters of Sex, publient donc Human Sexual Response, qui est une série d'observations et d'études sur le cycle de la réponse sexuelle humaine.
Et donc, ceux que vous avez interviewés vont faire le voyage aux États-Unis. On écoute un extrait du documentaire.
Bob, and receiving some pleasure. Now, let's reverse and have Mickey lie down on his stomach, and Barr will pleasure Mickey in a similar way. Perhaps Mickey will get closer to the camera.
Les livres américains, je les avais dans la version anglaise, ils n'étaient même pas encore traduits. Et je me suis dit qu'il fallait que je me forme. Et j'ai été en Californie à la recherche des travaux de recherche.
Michel Maignan.
Et j'ai ainsi abouti à San Francisco, où j'ai entrepris des études, un master de sexologie que j'ai fait en 3 étés, enfin 3 fois 1 mois, au National Sex Forum de San Francisco, où 2 pasteurs méthodistes sont devenus cinéastes et ont eu l'idée de filmer le comportement sexuel naturel des personnes, non pas sur un plan pornographique pour exciter, mais sur un plan démonstratif, pour montrer comment ça se passait et comment on pouvait faire pour ceux qui avaient des difficultés à le faire.
With a safe, functioning method of contraception, a couple is free to enjoy sexual contact to the fullest possible extent. Kissing, hugging and caressing.
Ils traitaient les couples en leur montrant des films et en leur faisant faire l'amour et en assistant à la séance, en leur donnant des conseils. Faut faire comme ça, non ? Avec votre langue, aller sur le clitoris, plus rapidement, enfin. Et on voyait l'orgasme, et la personne ayant son orgasme. Faisant des commentaires, après buvant un verre de vin californien, dans une ambiance amicale, détendue, festive. Et ça donnait de bons résultats, ce qu'il faisait.
Voilà, on a bien compris, effectivement, toutes les difficultés qu'avaient ces pionniers de la sexologie en France. D'abord, d'aller de l'autre côté de l'Atlantique, d'adapter aussi ces méthodes. C'est ce que vous avez raconté dans le documentaire que vous avez réalisé avec Renaud Dalmar, demain, c'est des films Saltel.
Voilà, parce que c'était très nouveau, très moderne et aussi très critiqué. Voilà, et ça prépare en fait tout ce dans quoi on baigne aujourd'hui, hein, la sexologie banalisée, la sexo dans, maintenant, on dit dans les magazines féminins.
Et masculins.
Voilà, et qui est un discours technique en fait sur les pratiques sexuelles et qui entretient l'injonction pour chacun de réussir sa vie sexuelle, d'avoir une vie sexuelle de bonne qualité.
C'est donc demain le documentaire que vous avez concocté avec Renaud Dalmar autour de la naissance de la sexologie en France. Et puis mercredi, on discutera plutôt des interdits, des difficultés, du bon mariage aussi. De tous ces traités dont nous lirons des extraits, ces traités qui permettaient à des couples d'avoir théoriquement une bonne vie sexuelle, mais également bonne vie sexuelle chrétienne, etc. Entre le 17e et le 19e siècle, ça sera le thème de notre émission de mercredi. Et jeudi, je le rappelle, nous partirons à Rome pour la question de la sexualité avec vous. Donc justement, Delphine Saltel, merci d'être venue pour présenter votre documentaire qu'on écoutera avec beaucoup de plaisir demain. Je rappelle que les 2 auteurs que nous avons invités dans cette émission d'aujourd'hui sont Georges Minck, La Pologne au cœur de l'Europe de 1914 à nos jours chez Buchet-Chastel, et Néron en Occident, c'est Donatien Gros, une figure de l'histoire, dans la Bibliothèque des idées chez Gallimard, que vous pouvez télécharger séparément de l'émission Le Feuilleton, épisode 13 de La Fabrique de la Guerre Froide, concoctée par Anaïs Quin et Véronique Samouilov. Et comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marcet. Jean-Guy Limège était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation.